Et c'est marquant, Jacques Lavergne, bonjour. Qu'est-ce que naissait ? Tout simplement une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers, parfois polémiques ou partisans, mais pas obligatoirement. C'est un texte littéraire qui aborde des domaines variés, historiques, scientifiques, philosophiques, économiques, politiques, etc. Aujourd'hui, notre homme à Washington, sous-titré, et c'est déjà une indication sur le contenu du livre, « Trump dans la main des Russes ». Il est sorti en mars 2025, 206 pages de texte, hein, il y a quelques annexes, et il coûte 20 euros, mais franchement, ça les vaut. Alors ce titre, qui est un clin d'œil au célèbre roman de Graham Greene, un vieux roman qui est paru en 1958, mais qui a eu son heure de gloire, qui s'appelle « Notre agent à la Havane ». L'éditeur, eh bien, c'est la maison Grasset, très ancienne maison. Bernard Grasset est né en 1881 à Chambéry, orphelin très jeune, élevé par son oncle. Il devient docteur en sciences économiques, il monte à Paris, comme on disait, il s'installe rue Gay-Lussac avec son ami Louis Brun. Il va fréquenter le café Vachette, il va rencontrer Moréas, Faguet, Giraudoux, les gloires de l'époque. Et en 1907, il fonde les éditions Nouvelles et publie son premier livre, Mounette, suivi de plusieurs autres, souvent à compte d'auteur, jusqu'au premier et énorme succès de À la manière d'eux, c'était des pastiches, signés Rebout et Muller. Et puis deux concours consécutifs en 1911 et 1912. Monsieur des Lourdines d'Alphonse de Chateaubriand, Fille de la pluie d'André Savignon. Il s'installe sous 61 rue des Saints-Pères. Et depuis cette date, les éditions Grasset y sont toujours. En 1913, il publie à compte d'auteur le premier livre d'un certain Marcel Proust, ça doit vous rappeler quelque chose, du côté de chez Swann, après que le manuscrit ait été refusé au Mercure, chez Ohlendorf et même chez Fasquelle. Et en 1920 s'ouvre pour lui la grande période. Il va lancer André Mauroy, François Mauriac, Henri de Monterland, Paul Morand. En 1901, il confie à Daniel Halévy la future prestigieuse collection Les Cahiers Verts, avec comme premier titre Maria Chapdelaine de Louis Aymon. Et le succès est au rendez-vous. Et la maison Grasset est lancée. Donc vous voyez, une très très ancienne maison. L'auteur de ce livre, de Notre homme à Washington, c'est Régis Janté. Régis Janté est journaliste, écrivain français, spécialiste des questions politiques, géopolitiques et sociales en Europe de l'Est et en Asie centrale, et bien connu pour ses analyses sur la Russie, l'Ukraine, la Géorgie et les pays voisins. Il est installé dans cette région depuis plusieurs années. Il livre des témoignages et des analyses de première main sur tous les événements qui se déroulent dans cette zone. Il a étudié les sciences politiques, le journalisme en France, comme quoi ça mène à tout, ce qu'il a rapidement conduit à s'intéresser aux dynamiques post-soviétiques en Europe de l'Est et en Asie centrale. Il est très attiré par les enjeux géopolitiques de ces régions, dans lesquelles il commence à travailler dès la fin des années 90. Il est installé aujourd'hui en Géorgie, à la capitale, à Tbilissi, correspondant pour plusieurs médias francophones, Radio France Internationale, Le Figaro, Le Monde Diplomatique. Sa couverture s'étend de la Russie à l'Ukraine, en passant par le Caucase et l'Asie centrale, des régions où il a souvent voyagé et noué des contacts avec des experts locaux et internationaux. Il a couvert tous les événements un peu médiatiques de l'époque, hein, la révolution des roses en Géorgie, c'était en 2003, la guerre russo-géorgienne, quand, comme ils l'ont fait avec l'Ukraine, les Russes ont envahi la Géorgie, c'était en 2008, le mouvement Euromaïdan, on se rapproche de l'Ukraine, et puis l'annexion de la Crimée en 2014, et le conflit dans le Donbass depuis 2014. Donc une expertise évidente qui repose sur une connaissance des dynamiques politiques locales, des mouvements de la société civile et des luttes d'influence entre grandes puissances, notamment, bien sûr, vous l'imaginez, entre la Russie et l'Occident. Alors le thème de cet essai, eh bien, c'est de, vous l'avez aussi deviné, ça tourne autour de Donald Trump, de ce nouveau candidat à la présidence des États-Unis, élu pour un second mandat. Et il semblerait bien que l'homme soit depuis des décennies sous l'influence de Moscou, la première puissance occidentale, est aujourd'hui dirigée par un président tenu, entre guillemets, par une Russie en plein bras de fer avec l'Occident. Alors dans les années 70, le KGB constate son retard dans le recrutement de sources. Aux États-Unis, il repère et puis il va cultiver un jeune développeur immobilier new-yorkais, ambitieux et sans scrupules, Donald Trump. Une cible toute désignée pour en faire un agent d'influence, objectif probablement atteint lors d'un premier voyage à Moscou de Trump en 87. Et à son retour, Trump prend des positions publiques critiquant l'OTAN, tout à fait dans la ligne du Kremlin. Les services russes vont lui apporter des soutiens financiers discrets mais salutaires par une ribambelle de mafieux soviétiques, d'espions, d'oligarques, tous soutiennent Trump, souvent sans que l'intéressé en comprenne immédiatement les raisons de cette sollicitude. À chaque fois qu'il frôle la faillite, et c'est arrivé assez souvent, de généreux mafieux achètent des appartements dans ses Trump Towers ou investissent dans ses projets immobiliers. Sauvetage occulte qui laisse des traces d'argent russe, et notamment à travers le rôle trouble de la Deutsche Bank. L'incroyable campagne électorale de 2016 confirme les soupçons d'acquaintance du candidat avec le Kremlin. Membre de son entourage en contact étroit avec les Russes, financement douteux, plus-value de 56 millions de dollars sur la vente de sa demeure à Palm Beach, à l'origine à l'oligarque Dimitri Ribolovlev, piratage de milliers d'emails de la candidate Hillary Clinton, etc. Et de fait, le président Trump se montre plus que conciliant avec Moscou. Il flatte Poutine, il réitère sa volonté d'anéantir l'OTAN, il prend des positions illibérales. La campagne actuelle va dans le même sens, hein. Enfin la campagne qui a été gagnée, Trump se déclarant d'ailleurs prêt à cesser tout soutien avec l'Ukraine, on sait aujourd'hui ce qu'il en est. À travers de solides recherches documentaires et des interviews sur le terrain, l'auteur Régis Janté passe au crible les nombreux indices qui tentent à prouver que Trump est l'homme des Russes. Avec son élection, Poutine peut espérer l'arrêt du soutien américain à Kiev. On y est. Il en découlerait une victoire russe en Ukraine aux conséquences incalculables pour le monde libre. Et encore, on n'en a pas mesuré toutes ces conséquences. Si Trump est l'homme des Russes, bien, il pourrait bien être le fossoyeur de l'Occident démocratique. Alors, c'est un livre qui est documenté, qui est précis, qui est factuel, qui est extrêmement bien renseigné, un travail d'enquête minutieux, et puis, vous le verrez en le lisant, un résultat au final qu'on pourrait qualifier de troublant. Alors si on regarde la table des matières, eh bien ça commence par une introduction intitulée « Imprévisible, Monsieur Trump », et après, au long de 8 chapitres, Régis Janté va découper l'histoire de Trump en dates, hein, 77-87, 70-80, premier contact, la mafia rouge investit les États-Unis, la banque devient folle, ça c'est la Deutsche Bank, etc. Donc jusqu'à une conclusion qu'il s'intitule, et là aussi tout le programme est donné, qui s'intitule « Un monde poutino-trumpien ». Alors, pour vous donner un peu une idée du ton du livre, eh bien je vais vous en lire quelques lignes. J'ai choisi tout à fait arbitrairement le chapitre 3, intitulé « En mai 1990-2000, quand la banque devient folle ». Voilà le texte. Que serait devenu Donald Trump sans les investissements des mafieux russes dans ses projets immobiliers ? Sergueï Milian, un exilé soviétique ayant travaillé comme agent immobilier pour des Russes désireux d'investir dans les projets de Trump en Floride, a répondu à la question lors d'une interview sur la chaîne de télévision ABC en juillet 2016 en pleine campagne électorale. Trump a fait, et on cite le Russe, ouvrez les guillemets, des affaires importantes avec les Russes et reçu des centaines de millions de dollars à la suite d'interactions avec des hommes d'affaires russes, fermez les guillemets. Un exemple éclatant, selon un courtier local, un tiers des 500 appartements vendus à partir de 2008 dans les trois tours de Trump près de Miami l'ont été à des russophones, au point que le micro-quartier a été baptisé le Petit Moscou. Beaucoup de ces achats étaient sans doute réels et payés au prix du marché par des noms mafieux. Mais l'origine de l'argent était souvent douteuse et dans bien des cas, les montants étaient surestimés, là aussi, de façon douteuse. Ces placements étaient la solution parfaite tant pour Trump que pour les Russes. Eux possédaient des milliards de dollars provenant de sources illicites. Lui avait un sérieux besoin d'argent frais et entre l'immobilier et les casinos, il disposait d'un moyen de blanchiment idéal, nous dit Craig Unger. Des sommes considérables passaient entre ses mains. Il pouvait continuer à jouer le type formidable qui flambe de superbes filles au bras, côtoie la jet set et les grands de ce monde. Ce modèle économique assez particulier semble être également celui qui a présidé aux relations de l'Américain avec la Deutsche Bank et par l'intermédiaire de la grande allemande, de la banque allemande, pardon, avec l'État russe. Donc, vous voyez le ton de cette affaire et il faut aller à la conclusion de l'essai. Alors, je ne vais pas vous livrer la conclusion, ce serait dommage. Mais bon, je vais juste vous lire deux extraits dans cette conclusion. Le premier, page 193, donc le tout début de cette conclusion intitulée « Un monde poutino-trumpien ». Pour sa réélection, Trump est plus déterminé que jamais à sculpter à coups de marteau une société, un État marqué par le populisme, un certain autoritarisme, voire la dictature. Et autre citation, page 194, dont nous sommes toujours dans la conclusion de l'essai. Le monde que Trump veut ériger, avec l'incroyable énergie dont il est capable, ne serait pas qu'un monde trumpien, à bien des égards. Il serait aussi celui de la Russie de Vladimir Poutine. Ce serait un monde en grande partie probablement, poutino-trumpien. Pas seulement parce que la Russie, ses services d'espionnage, tiennent Trump, l'ayant « cultivé », entre guillemets, « cultivé », depuis plus de 40 ans notamment. Mais aussi, et c'est plus sérieux et profond en un sens, parce que Trump et Poutine sont en phase sur des choses essentielles. Leur aversion pour la démocratie, leur passion pour la grandeur de l'État et le mépris des peuples qui va avec, un certain culte de la force, la soumission de la vérité à la politique. Alors pourquoi faut-il lire ce livre ? Que nous apprend-il ? Eh bien, je vais laisser cette conclusion à M. Jean-Louis Bourlange, qui est essayiste, qui a été député européen, député français, qui est l'ancien président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, donc un homme parfaitement au fait de ces thématiques. Et voilà ce qu'il a déclaré dans l'excellente émission de Philippe Meyer, Le Nouvel Esprit Public, c'était le 2 mars 2025, je cite Jean-Louis Bourlange. « Je vous recommande ce livre de Régis Jeantet, il est court, très élégamment écrit, et il montre parfaitement la profondeur, l'intensité et l'ancienneté des liens entre le 47e président des États-Unis et la Russie, qu'elle soit soviétique ou non. Ces liens remontent aux années 1970, ils ont été décisifs au moment d'aventures financières scabreuses et aléatoires de Donald Trump. Cela met en évidence une dissonance assez profonde entre la stratégie des républicains de l'époque Reagan et Bush 1 et les positions de Trump. Est-il pour autant un agent ? Le livre montre bien à quel point il est parfaitement identifié et choyé par les services de renseignement russes. Traître ? Pas encore, ça c'est beaucoup plus récent, mais manifestement d'intelligence avec l'ennemi. Le livre met le doigt sur une chose qu'on a du mal à comprendre. Comment les républicains d'aujourd'hui peuvent-ils s'accommoder d'une rupture aussi totale avec les victoires de Reagan et de Bush senior ? Car s'il est une chose dont les présidents républicains peuvent s'enorgueillir, c'est d'une victoire dans la guerre froide. Il semble que Trump tétanise le parti républicain. On se demande pour combien de temps. Fermez les guillemets, c'était la conclusion de Jean-Louis Bourlange. Donc j'espère que ce que je vous en ai dit et ce qu'en a dit excellemment Jean-Louis Bourlange vous donnera envie de lire ce petit livre. Franchement, il mérite le détour. Cet été, c'est marquant par Jacques Lavergne, à la réalisation Grégor Nachez. Merci Grégor. Et bien sûr, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne lecture à tous.